Parmi les plaies qui affligent ce bas monde, les guerres sont en tête de liste. Le premier meurtre de l'histoire humaine est Caïn qui assassina son frère Abel. Depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, les hommes s'entretuent et les nations s'affrontent, et aujourd'hui, la palme des massacres en tout genre appartient au groupe terroriste. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de textes bibliques parlent de guerre. C'est le cas du psaume 75 qui affirme la souveraineté de l'Éternel qui va exercer ses jugements sur les impies. Ce cantique a pu être écrit au moment de l'invasion assyrienne où, quand Judas Maccabée a pris la tête de la résistance juive contre Antiochus Épiphane qui menace sérieusement la sécurité d'Israël. L'accent prophétique qui caractérise le psaume d'Asaph est très marqué dans le 75. Je commence à le lire. Au chef des chœurs, psaume d'Asaph, à chanter sur la mélodie de « Ne détruis pas, nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons, nous proclamons qui tu es. Qu'on raconte tes merveilles », psaume 75, les versets 1 et 2. Le psalmiste est si convaincu que Dieu va délivrer Israël qu'il lui rend grâce par avance. Je continue. « Quand je saisirai le moment, dit l'Éternel, je rendrai justice avec équité. Si la terre tremble avec tous ses habitants, moi, j'en affermis les bases. » Pause, psaume 75, les versets 3 et 4. Une pause instrumentale suit la déclaration de Dieu. Il intervient non pas parce que la situation est désespérée, mais parce que c'est le moment qu'il a prévu. Ce n'est ni avant ni après. Et personne ne bouscule son planning, il en est de même pour le jour où Jésus reviendra pour établir son royaume sur terre. Tout est déjà décidé, mais nul n'en connaît le jour. Je continue. Je déclare aux arrogants, trêve d'arrogance, et aux gens méchants, ne levez pas votre front, ne levez pas si haut contre le Très-Haut, cessez de parler avec insolence, car ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident, et ce n'est pas du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine de vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. Psaume 75, les versets 5 à 9. Les attaques contre Israël venaient toujours du nord, et il en sera de même à la fin des temps. Dans tous les cas, les méchants frappés par Dieu sont comme ivres, chancelants et sans force. Je finis ce psaume 75. Moi, je chanterai sans cesse, je célébrerai le Dieu de Jacob. Il brisera l'arrogance de tous les méchants, tandis que le juste pourra marcher le front haut. Psaume 75, les versets 10 et 11. Le psaume 75, qui commence et finit par une note de louange, met en avant la foi en Dieu triomphante du psalmiste. Nous arrivons au psaume 76, qui célèbre la puissance de l'Éternel qui a secouru Jérusalem. La tradition rattache sa composition à la délivrance de la ville sainte des armées assyriennes qui furent presque entièrement détruites. Ce que confirme l'ancienne version grecque qui ajoute en suscription « contre l'Assyrien ». Dans le second livre des Rois, au chapitre 19 et au verset 35, il est écrit « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp des Assyriens et il fit périr 185 000 hommes. Le lendemain matin, au réveil, le camp était rempli de tous ses cadavres. » Je commence à lire le psaume 76. Au chef des chœurs, un psaume d'Asaph, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Dieu s'est fait connaître en Juda, son nom est grand en Israël. Sa résidence est à Salem et sa demeure est en Sion. Psaume 76, les versets 1 à 3. Salem est l'ancien nom de Jérusalem. Il rime avec Shalom qui veut dire paix. C'est une façon de dire que là où Dieu réside, règne sécurité et tranquillité. Je continue. C'est là qu'il a brisé les flèches fulgurantes, les boucliers, les glaives, tous les engins de guerre. pause, psaume 76, verset 4. C'est un cri de victoire, mais aussi l'annonce qu'un jour ce sera la fin de tous les conflits armés. Je lis la célèbre prophétie d'Ésaïe à ce sujet. L'Éternel sera l'arbitre des peuples. Oui, il sera le juge de nombreuses nations. Martelant leurs épées, ils forgeront des socles pour leurs charrues. Et, de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe chapitre 2, verset 4. Cette paix durable se réalisera seulement quand Jésus-Christ établira son royaume sur terre. Je continue le psaume 76. Tu es le Tout-Puissant. Tu es plus éclatant que des montagnes de butin. Psaume 76, verset 5. Le psalmiste s'adresse à Dieu dont la gloire dépasse infiniment en éclat celle des puissances terrestres et de tout ce qui brille comme l'or et les pierres précieuses. Je continue. Tous les vaillants guerriers ont été dépouillés. Ils se sont endormis de leur sommeil. Tous ces héros de guerre n'ont pas su retrouver la vigueur de leurs mains. Dieu de Jacob, à ta menace, les chars et les chevaux se sont figés sur place. Psaume 76, les versets 6 et 7. Les soldats assyriens qui assiégeaient Jérusalem sont morts, frappés par l'Éternel. N'ayant plus de cavaliers pour les monter, chevaux et chars de guerre sont immobiles dans le camp ennemi. Je continue. Que tu es redoutable! Qui tiendra devant toi quand ta colère éclate? Du ciel, tu fais entendre quel sera ton verdict, et la terre, effrayée, se tient dans le silence. Quant à toi, ô Dieu, tu interviens pour prononcer le jugement et pour apporter le salut à tous les affligés ou humbles de la terre. Pause. Psaume 76, les versets 8 à 10. Suite à l'intervention de l'ange de l'Éternel, au tumulte des armées impatientes d'en découdre, succède le silence de la mort. Le même scénario se reproduira à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra pour juger le monde, dans Apocalypse chapitre 6, verset 17. Les autres peuples qui étaient également menacés par les Assyriens bénéficient de la délivrance d'Israël en leur échappant eux aussi. Cette délivrance est le gage du salut de tous ceux qui s'humilient sous la main de Dieu. Je continue le psaume. Car même la colère des hommes te rend gloire, et tu te revêts du reste des fureurs. Psaume 76, verset 11. La fureur de l'homme est au service des plans de Dieu. Sa victoire révèle sa toute-puissance. Le reste des fureurs sont les armes ennemies qui deviennent des trophées de guerre. Je finis le psaume 76. Vous tous qui entourez l'Éternel, votre Dieu, faites des vœux et accomplissez-les. Apportez vos présences à ce Dieu redoutable, car il rabat l'orgueil des princes. Ils seront redoutables pour les rois de la terre. Psaume 76, les versets 12 et 13. Israël et toutes les nations que Dieu a délivrées des Assyriens sont invitées à lui apporter des présents. Pareillement, à la fin des temps, tous les peuples de la terre viendront à Jérusalem s'incliner devant le roi des rois, et dans les psaumes 68 à 72, il est écrit « Du haut de ton sanctuaire, dominant Jérusalem, tu recevras les présents que t'apporteront les rois. » Tous les rois lui rendront hommage. Psaume 68, verset 30, psaume 72, verset 11. Nous arrivons au psaume 77 qui commence par une prière d'appel au secours à cause d'une catastrophe nationale. Comme le 74, il exprime à la fois la douleur et le désarroi du psalmiste qui lutte avec lui-même et avec Dieu parce qu'il ne comprend pas pourquoi il n'agit plus comme dans le passé. Cependant, ce psaume se termine sur une note positive. Je commence à le lire. Au chef des cœurs, selon Yedutum, un psaume d'Asaph. C'est Dieu que j'appelle, et je crie, c'est Dieu que j'appelle, il m'écoute. Psaume 77, versets 1 et 2. Yedutum est l'un des trois chefs des chœurs de David qui a sans doute créé un genre de musique particulier utilisé ici. On ne connaît pas les circonstances de la composition de ce psaume, sinon qu'il s'agit d'un moment particulièrement tragique de l'histoire d'Israël. Je continue. « Au jour de ma détresse, je m'adresse au Seigneur tout au long de la nuit, sans cesse, je tends les mains vers lui, je reste inconsolable. » Psaume 77, verset 3. Le psalmiste persévère dans la prière, mais sans résultat. Il ne veut pas d'autre consolation qu'une réponse de Dieu. Nous sommes comme lui. Dans les jours de détresse, nous voulons qu'il intervienne. Je continue. Dès que je pense à Dieu, je me mets à gémir. Et quand je réfléchis, je perds tout mon courage. Pause. Quand je veux m'endormir, tu me tiens en éveil. Me voici dans le trouble. Je ne sais plus que dire. Je songe aux jours passés, aux années d'autrefois. Psaume 77, les versets 4 à 6. Les souvenirs qui jadis réconfortaient le psalmiste, aujourd'hui l'affligent, car il mesure la différence entre le malheur actuel et les délivrances d'antan. Je continue. J'évoque mes cantiques au milieu de la nuit. Je médite en moi-même. Mon esprit interroge. L'abandon du Seigneur va-t-il durer toujours? Ne reviendra-t-il plus jamais favorable? Son amour sera-t-il épuisé à jamais? A-t-il cessé pour toujours de parler? Dieu a-t-il oublié de manifester sa faveur? A-t-il, dans sa colère, fermé son cœur? Pause. Psaume 77, les versets 7 à 10. Toutes ces questions demandent un non catégorique, et pourtant, c'est bien ce qui semble arriver. Quand j'ai des ennuis, je suis vite tenté d'adopter une vision du monde athée. Je commence à penser et à agir comme si Dieu m'avait abandonné, ce qui est un non-sens, car il est fondamentalement bon et manifeste sa miséricorde envers tous ceux qui l'invoquent. Je continue. Voici, me suis-je dit, ce qui fait ma souffrance, le Très-Haut, n'agit plus comme autrefois. Psaume 77, verset 11. Ce n'est plus une question, mais une affirmation. La crise est à son paroxysme. Mais en précisant ainsi là sa pensée, le psalmiste peut se ressaisir et reprendre pied sur le terrain de la foi. Je continue. Je me rappelle ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes miracles passés. Je veux méditer sur tes œuvres et réfléchir à tes hauts faits. Dieu, ta conduite est sainte. Quel Dieu est aussi grand que Dieu? Psaume 77, les versets 12 à 14. Le changement de ton est frappant. Le psalmiste prend conscience qu'accuser l'Éternel de n'être plus le même, c'est l'offenser. Alors, il fait volte-face. Dès lors, il rappelle les œuvres de Dieu pour admirer qu'il ne change pas, qu'il est toujours le même. Le psalmiste va se remémorer les miracles qu'il a faits en faveur d'Israël et qui révèlent non seulement ce qu'il a été, mais surtout ce qu'il est encore. Dans ses souvenirs, il puise la certitude que Dieu est incomparable. Cette affirmation est centrale au psaume. Alors que, tout d'abord, les voies de Dieu paraissaient incompréhensibles au psalmiste. Ici, il constate qu'elles sont infiniment élevées au-dessus des pensées de l'homme. Dieu habite en effet une lumière inaccessible et il condamne tout ce qu'il y a de mesquin chez l'homme. Je continue. Car tu es le Dieu des miracles, tu as déployé ta puissance parmi les peuples, oui c'est toi. C'est par ton pouvoir que tu as libéré ton peuple, les enfants que Jacob a engendrés et que Joseph a nourris. Pause. Psaume 77, les versets 15 et 16. La pause instrumentale prélude à l'hymne grandiose qui va terminer ce psaume. C'est un bel exemple d'une victoire remportée sur le découragement par la puissance de la foi. Je continue. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles se sont mises à bouillonner, et même les abîmes ont été ébranlés. Les nuées déversent de la pluie en torrent, et dans le ciel d'orage retentit le tonnerre. Tes flèches sillonnaient le ciel dans tous les sens. Au fracas de la foudre, dans le tourbillon, l'éclat de tes éclairs illuminant le monde. La terre s'effraya et se mit à trembler. Au milieu de la mer, tu as frayé ta route et tracé ton sentier parmi les grandes eaux. Et nul n'a discerné la trace de tes pas. Psaume 77, les versets 17 à 20. Ce développement poétique décrit la maîtrise de Dieu sur les forces de la nature. Les abîmes et la mer rouge sont personnifiés en serviteurs qui accomplissent la volonté de leur divin maître. Dieu ébranle ciel, terre et mer, et puis tout reprend son cours naturel. Je finis le psaume 77. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par Moïse et Aaron, comme un berger conduit son troupeau de brebis. Psaume 77, verset 21. Dieu ne s'est pas contenté de secourir Israël de la détresse, il est devenu leur grand berger qui conduit ses brebis. C'est par cette image reposante, fréquente dans les psaumes d'Asaph, que se termine ce cantique. Comme jadis, Dieu a sauvé son peuple. Aujourd'hui, il est tout aussi capable de délivrer ceux qui l'appellent à l'aide. Nous arrivons au psaume 78 qui sert à la fois d'instruction et d'avertissement. Il s'attarde longuement sur l'histoire d'Israël, surtout sur ses fautes lors de la traversée du désert et à l'époque des chefs juges. Il explique pourquoi la tribu d'Éphraïm a été mise à l'écart au profit de Juda, d'où est issu David, le roi choisi par Dieu pour régner sur son peuple. Je commence à lire le psaume 78 en compressant tout au long. Méditation d'Asaph. Mon peuple, écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire. J'évoquerai les secrets du passé. Nous redirons les œuvres glorieuses de l'Éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges. Il a établi une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu'ils observent ses commandements. Qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Psaume 78, les versets 1 à 8. Asaph, contemporain de David, était prophète. En 2 Chroniques, chapitre 29, verset 30. Dans le prologue, il expose son sujet qui est de révéler à Israël le vrai sens de son histoire. Je continue. Les hommes d'Éphraïm, armés de l'arc, ont tourné le dos au jour du combat et n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de suivre sa loi. Psaume 78, les versets 9 et 10. Le territoire de cette tribu située au centre du pays était considérable. Dieu lui avait même confié la garde du sanctuaire qui était située à 40 kilomètres au nord de Jérusalem. Mais la période des chefs juges se révéla catastrophique. Cette tribu refusa d'obéir à Dieu. Juges chapitre 1, les versets 29, chapitre 2, verset 2, chapitre 8, verset 1 et chapitre 12. Ce qui conduisit à la prise de l'arche de Dieu par les Philistins vers 1050 avant Jésus-Christ. Je continue plus loin. Mais ils péchaient contre lui sans arrêt. Ils bravaient le Très-Haut dans le désert. Dans leur cœur, ils ont mis Dieu au défi en réclamant à manger à leur goût. Ils ont tenu des propos contre lui. Dieu peut-il dresser la table au désert? Psaume 78, les versets 17 à 19. C'est la première rébellion des Hébreux qui tentèrent Dieu en essayant de lui forcer la main en abusant de sa patience, de sa bonté et de sa puissance. Je continue plus loin. Pour les nourrir, Dieu fit pleuvoir la manne et il leur donna le froment du ciel. Chacun mangea de ce pain des anges. Dieu leur fournit à satiété des vivres. Il fit pleuvoir de la viande sur eux, aussi abondante que la poussière. Mais leur envie n'était pas assouvie. Ils avaient encore la viande à la bouche que la colère de Dieu éclata. Alors, il frappa les plus vigoureux, abattant les jeunes gens d'Israël. Malgré cela, ils ont péché encore. Ils n'ont pas eu foi malgré ces miracles. S'ils priaient, c'était pour le tromper. Ils lui offraient des hommages menteurs car leur cœur n'était pas droit envers lui. À son alliance, ils n'étaient pas fidèles. Lui, pourtant, dans sa grande pitié, leur pardonnait au lieu de les détruire car il se souvenait qu'ils étaient fragiles. Un souffle qui passe et ne revient plus. Psaume 78, les versets 24 à 39. L'incrédulité et la convoitise furent les principales fautes des Israélites. Je continue plus loin. Ils se sont dérobés comme leur père et ils ont agi sans fidélité. On ne pouvait pas leur faire confiance, pas plus qu'à l'arc dont la flèche dévie. Leur haut lieu ont exécuté sa fureur et leurs idoles son indignation. Dieu fut en colère contre les siens et abandonna son peuple à l'épée. Le feu consuma ses adolescents, ses vierges ne furent pas chantées. Frappés par l'épée, ses prêtres périrent, ses veuves n'eurent pas droit à des larmes. Psaume 78, les versets 57 à 68. L'infidélité d'Israël redoubla à l'époque des juges. Durant la bataille qui entraîna la prise du coffre sacré par les Philistins, 30 000 Israélites périrent. 1 Samuel chapitre 4, verset 10. Avec tant de morts au combat, il n'y avait plus de mariage et on célébrait la jeune fille dans des fêtes nuptiales. Et les veuves, obligées de fuir, n'ont pas pu pleurer leur mort lors des cérémonies funèbres. Je finis le psaume 78. Dieu ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda, ce mont Sion qui prit en affection. C'est là qu'il édifia son sanctuaire, pareil aux cimes, comme la terre établie pour qu'elle dure toujours. Il a choisi son serviteur David, il l'a pris du milieu de ses brebis pour qu'il soit berger de Jacob, son peuple, et d'Israël, qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre qui les guida d'une main avisée. Psaume 78, les versets 67 à 72. Il y a un lien étroit entre la construction du sanctuaire et David. Jésus-Christ, son descendant, viendra installer son règne de 1000 ans à Jérusalem sur la montagne de Sion. Ce récit pourrait se poursuivre indéfiniment. Car la bienveillance divine et l'infidélité humaine ont duré tout au long de l'histoire.